9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On va parler de l'eczéma ce matin avec mes invités, le docteur Inès Zara, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue, vous exercez à l'hôpital Saint-Joseph, vous avez une spécialité en particulier?
Tout ce qui est dermatose inflammatoire chronique.
Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on appelait ça une...
Les dermatoses inflammatoires chroniques, c'est-à-dire le psoriasis, l'eczéma, la maladie de Verneuil et l'urticaire.
D'accord. Et quand on a de l'eczéma, il faut trouver un dermato qui soit spécialisé...
Dédic.
Alors avec nous, nous avons Stéphanie Méran. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'Association française de l'eczéma et vous organisez la journée nationale de l'eczéma, c'est samedi, avec un grand eczéma game.
Alors l'eczéma game, c'est un jeu pour mieux comprendre la maladie. Donc on sera dans plusieurs villes, Guérande, Bordeaux, Lyon, Nice, Strasbourg, Saint-Martin-du-Riage et Paris. Et en fait, c'est un jeu à base de QR code. On a un petit circuit dans chacune des villes avec des quiz sur la maladie, des challenges pour mieux comprendre ce que c'est la maladie.
D'accord. Il faut s'inscrire pour participer ?
Oui, tout à fait. Il faut s'inscrire sur le site de l'Association française de l'eczéma, associationeczema.fr.
Votre slogan cette année, c'est « Arrête de te gratter, c'est plus facile à dire qu'à faire ». Finalement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler, le fait de se gratter ou pas, docteur ?
Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on dispose actuellement de traitements qui permettent de contrôler, d'améliorer ce symptôme de l'eczéma. Et non, parce qu'on ne peut pas tout de suite se dire « là, j'arrête de me gratter ». Donc c'est plutôt « arrête de te gratter en étant sur le bon circuit, avec les bons traitements et la bonne prise en charge ».
Mais de toi-même pas traité, est-ce que tu peux contrôler l'envie de te gratter ou pas ?
C'est extrêmement difficile.
Stéphanie ?
Je confirme, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, hein, qu'on a du mal à contrôler. Après, il y a quelques techniques qui existent anti-grattage. On peut avoir, savoir couper ses ongles très courts pour éviter de se griffer et de saigner la peau. On peut avoir des bacs de glace au frais qu'on enroule dans un t-shirt, par exemple en coton, pour mettre du froid sur la partie du corps qui nous gratte énormément. Mais c'est vrai que quand c'est l'intégralité du corps, si le traitement n'est pas le bon, c'est vraiment très compliqué de soulager cette démangeaison qui arrive.
On peut faire des choses pour prévenir l'arrivée ou diminuer l'intensité de la gratouille. C'est-à-dire avoir toujours une peau hydratée, utiliser les bons produits qui ne vont pas irriter la peau, choisir les bons vêtements en coton, de sans couture idéalement, ne pas dormir dans un environnement chaud, quand il fait 30 degrés, ne pas garder sa couette, choisir certaines activités ou l'heure des activités physiques, prendre sa douche tout de suite après, pas de produits détergents, etc. Pour ne pas initier ce phénomène de grattage, parce qu'une fois le phénomène initié, effectivement, il y a des techniques pour diminuer, notamment avoir une eau thermale ou un brumisateur pour essayer de refroidir un peu les choses. Les glaçons ne sont pas toujours disponibles, mais prévenir aussi peut être efficace.
Parce que le grattage, c'est une réponse automatique.
Il y a des récepteurs qui sont spécifiques au grattage, comme la douleur, la sensation froid, chaud, etc. Et chez les patients qui ont de l'eczéma, à force de stimuler, ces récepteurs sont un peu hypertrophiés, sont augmentés. Et donc, le circuit est assez rapide et il est déjà initié. Donc, il y a une pérennisation de ce grattage.
On se gratte à cause de ce qu'on appelle le prurite.
C'est le maître symptôme de l'eczéma.
Et ça veut dire quoi, prurite ?
Prurite, c'est la sensation d'aller gratter la peau. Et c'est une sensation qui est complètement différente et à dissocier de la douleur. C'est vraiment le besoin de se gratter. Parce qu'on peut avoir aussi de la douleur au niveau de la peau.
Mmh. C'est une idée reçue ou c'est une réalité, Stéphanie ? Le fait qu'on ait plus envie, quand on a de l'eczéma, de se gratter la nuit ?
Alors, c'est vrai que les démangeaisons sont souvent les plus fortes en fin de journée. Le stress est passé de la journée, notre cerveau est plus alerte, on va dire, pour les démangeaisons. Alors que la journée, c'est vrai que quand on a le cerveau bien occupé dans nos vies trépidantes, c'est vrai que les démangeaisons, on les ressent moins. Mais on peut les ressentir en journée, mais c'est vrai que c'est souvent quand même le soir. Mmh. Donc, il faut réussir à calmer son cerveau, pour éviter qu'il se, enfin, de sentir ses démangeaisons. Donc c'est vrai que l'endormissement peut être compliqué. On peut aussi se réveiller la nuit pour des crises de grattage, comme tout à l'heure le docteur Lara nous disait. Pour il fallait garder du froid pour la nuit, pas avoir trop chaud.
Ouais.
Parce que sinon, on transpire et donc on va se gratter. Donc c'est vrai qu'on peut éviter ce phénomène-là.
Parce que le fait de transpirer, ça donne envie de se gratter ?
Oui, c'est ça.
Et quand on transpire, effectivement, donc la peau va être un peu irritée, parce que la transpiration, ce n'est pas que de l'eau, c'est beaucoup de choses et c'est souvent un peu salé. Donc, et cette irritation va aggraver un peu donc l'eczéma. Et on va avoir tendance à plus se gratter quand on a chaud, parce qu'on stimule également indirectement ces récepteurs de ce qu'on appelle le prurit.
Mais c'est vrai que les lésions semblent plus actives la nuit et sont plus ressenties la nuit.
Après, en général, il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères.
Ouais.
Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font la nuit. Déjà, pendant la journée, on se gratte même sans se rendre compte. Et la nuit, c'est quand même, en soirée, c'est un moment où on va revoir peut-être toute sa journée, avoir quelques idées négatives. C'est un moment où on discute beaucoup avec soi. Et donc, on peut se rappeler de son eczéma, avoir le temps de regarder ses plaques, alors que pendant toute la journée, on est très, très occupé. Et donc, c'est là où on peut déclencher ou accentuer ce besoin de se gratter.
Parce qu'on rumine, en fait.
On a le temps. Pendant la journée, on a beaucoup moins le temps.
Alors, c'est vrai, Stéphanie, que c'est un sujet qui est assez peu abordé, le sommeil et l'eczéma. Et pourtant, c'est un vrai problème.
Bah oui, parce que c'est vrai, quand on passe une mauvaise nuit, le lendemain matin, on va se réveiller avec une peau qui va être plus sèche, plus sensible, qui va nous tirailler. Donc c'est vrai que le sommeil, mais après, comme pour tout le monde, hein, est très important pour se sentir bien dans sa peau.
Docteur ?
Actuellement, vu qu'on connaît beaucoup mieux la maladie, on prend vraiment en considération ces troubles du sommeil. Et d'ailleurs, nous, en tant que médecins, on a une échelle très très simple. C'est une échelle visuelle où on demande systématiquement, la première ou même les consultations de suivi au patient, de noter le retentissement sur son sommeil, de son sommeil, avec une échelle allant de 0 à 10. 0, c'est-à-dire aucun retentissement. 10, il ne dort pas de la nuit. Donc on prend vraiment ça en considération et on le note systématiquement.
C'est un indicateur, en fait.
Et le sommeil, est quand même, ça construit un cercle vicieux. C'est-à-dire, on a son eczéma, on se gratte, on ne dort pas. Et puis, ça retentit sur notre eczéma parce que toute source de stress peut aggraver l'eczéma. Donc, je pense que là, on comprend beaucoup mieux ce retentissement. Et ce retentissement est différent chez l'enfant par rapport à l'adulte. Le fait de ne pas bien dormir peut avoir un retentissement sur la croissance, les résultats scolaires chez l'enfant, alors que chez l'adulte, ça peut avoir un retentissement sur ses performances au travail, mais également sur ses relations en société, notamment avec son conjoint, voire ses enfants.
Quels sont les conseils que vous donnez alors pour la nuit ? Déjà au niveau de la couverture, des couettes, des...
Il y a énormément de conseils. Il faut que la température de la chambre soit adaptée. On est plutôt dans des températures basses. Il ne faut pas trop se couvrir la nuit. Il faut avoir du coton idéalement sans couture et vraiment des tissus qui n'irritent pas la peau. Plutôt un petit drap également en coton. Pour les enfants, ne pas oublier de laver régulièrement les doudous pour qu'il n'y ait pas aussi d'autres facteurs comme les acariens, etc., qui peuvent aggraver. Bien assainir la chambre. Il ne faut pas qu'il y ait de polluants également dans la chambre. Donc, aérer pendant la journée, passer systématiquement l'aspirateur, etc., parce qu'on sait très bien que les polluants aggrave aussi l'eczéma. Et bien sûr, ne pas oublier d'hydrater. Prendre peut-être une douche avec une eau tiède, pas trop chaude, avant de dormir pour ne pas réactiver le prurit. Et juste après, mettre sa crème hydratante. Choisir le bon produit pour faire la douche également. Et ne pas oublier d'avoir un peu de froid à côté au cas où. Y a des,
Donc c'est le coton, la laine, on...
La laine, on oublie.
Le linge, j'imagine, enfin...
Tout ce qui est... le coton, vraiment, est la meilleure solution. Et il y a des sociétés spécialisées, sans citer de nom, qui font des vêtements qui sont destinés aux patients qui ont des eczémas en général, que ce soit la dermatite atopique ou même toutes les maladies inflammatoires de la peau.
Quand on vous écoute, on a l'impression que vraiment, c'est la chaleur qui est l'ennemi de l'eczéma.
C'est pas uniquement la chaleur, mais la chaleur va un peu irriter la peau. Et vu que déjà, dans l'eczéma en général, on a quand même... une anomalie de cette barrière cutanée. Donc la peau, du coup, elle va être plus sujette et plus réceptive aux irritants de l'environnement et on va déclencher la réaction inflammatoire de l'eczéma.
Oui, Stéphanie, vous m'avez dit que finalement, ce que les personnes qui ont de l'eczéma n'aiment pas, ce sont les variations de température.
Oui, on peut être très sensible aux changements de température. Certains regardent régulièrement la météo dans la journée parce qu'ils appréhendent en fait la météo de demain. Les jours de canicule, on n'aime pas trop. Le froid, certains, ça peut être un facteur déclenchant de crise. Donc, on est assez sujet à tout notre environnement.
Et là, en ce moment, avec des matinées qui piquent un peu, là, qui sont bien froides, et des journées qui sont plus chaudes.
Oui, tout à fait. Cette variation sur une journée peut être un peu compliquée pour les patients. On ne sait pas trop comment s'habiller. Il faut s'habiller avec plusieurs couches pour pouvoir essayer d'avoir moins chaud possible en fin de journée. Puis là, il y a le pollen aussi qui tourne dans l'air, donc c'est un peu compliqué.
Alors, quel lien entre pollen et eczéma ?
Je vais juste rapidement rebondir sur le froid et je reviens sur le pollen, parce que le froid va également assécher la peau. Il y a aussi ce qu'on appelle la xérose cutanée, c'est-à-dire la sécheresse cutanée, qui est également un des signes de l'eczéma et particulièrement la dermatite atopique et l'eczéma atopique, pour revenir au pollen. Voilà. Donc pour l'eczéma, il y a trois types d'eczéma, la dermatite atopique.
On va voir tout à l'heure, on va définir précisément ce que c'est que l'eczéma après la pub. Ouais.
Pour certains, il y a ce qu'on appelle le terrain atopique, c'est-à-dire qu'on est prédisposé pour avoir de l'atopie et le pollen peut déclencher par exemple une rhinite allergique, ou on peut avoir des terrains d'asthme ou des conjonctivites allergiques qui font partie de ce gros sac de l'atopie où il y a également de l'eczéma.
Allez, on parle de l'eczéma ce matin à l'occasion de la journée nationale de l'eczéma, c'est samedi et vous êtes nos invités jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et nous parlons de l'eczéma ce matin avec le docteur Inès Zahara, qui est dermatologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, puis Stéphanie Méran, qui est fondatrice de l'Association française de l'eczéma. C'est une association de patients, hein, Stéphanie ?
Oui, tout à fait, patients et de parents qui ont des enfants atopiques.
Voilà, et c'est vous qui organisez la journée nationale de l'eczéma, et cette année, c'est samedi. Vous êtes tombé comment dans l'eczéma ? Ça a toujours fait partie de votre vie ?
Oui, tout à fait. On a un terrain fort au sein de la famille. Et très petite, en fait, j'ai commencé à faire des allergies alimentaires. Ensuite, un peu plus grande, de l'asthme. Et plus adolescente, un eczéma assez fort sur le visage, le cou.
Et là, du coup, c'est une maladie qui se voit. Est-ce que vous avez souffert d'exclusion ?
Alors, j'ai pas souffert d'exclusion. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des personnes qui ont pu m'arrêter dans la rue pour me poser des questions sur ma peau, ou des copains, des copines qui se posaient des questions sur pourquoi je pouvais pas faire telle ou telle activité parce que j'étais en pleine crise et que c'était vraiment pas possible pour moi. Donc, c'est plutôt des incompréhensions, en fait, liées à la maladie.
Quelles sont les activités que vous ne pouvez pas faire, par exemple, quand vous êtes en poussée?
Ça va être la piscine, ce qui est compliqué avec deux enfants bas âge qui aiment bien l'eau. Tout ce qui est sport, c'est vrai que j'ai pendant longtemps arrêté le sport à cause de ma peau. J'y ai repris il y a quelques années et j'adapte en fait mon activité sportive en fonction de ma peau. Je vais faire peut-être un peu plus de pilates ou du yoga les jours où c'est moins bien et puis reprendre des activités un peu plus... cardio quand la peau va bien, faire ça tôt le matin pour éviter d'avoir trop chaud. C'est vrai que la transpiration, je veille assez fort pour éviter d'être en pleine crise pour le reste de ma journée.
Alors, on parle de l'eczéma, mais on devrait dire les eczémas, puisqu'il y en a plusieurs. Quelles sont les différentes catégories d'eczéma qu'on a, docteur ?
Il y a essentiellement trois catégories d'eczéma. Donc, on s'est bien étalé sur la dermatite atopique ou l'eczéma atopique qui s'associe à ces différentes maladies au sens large d'allergies, l'asthme, la rhinite, la conjonctivite, et certaines allergies alimentaires.
C'est le mot atopique qui parle de l'allergie.
Exactement. Mais allergie vraiment au sens large. Il faut bien préciser les choses. C'est une prédisposition génétique à une certaine dysrégulation ou trouble du fonctionnement du système immunitaire. Donc, on est génétiquement prédisposé. Notre système immunitaire va plutôt aller vers l'inflammation de ce type avec une peau qui est altérée.
Donc, là, c'est le système immunitaire qui fonctionne pas...
Qui hyperfonctionne et réagit de façon excessive par rapport à ces stimuli ou allergènes de l'environnement. C'est pour ça qu'on parle d'allergie au sens large.
D'accord. Et donc là, que vous parlez de terrain génétique, c'est-à-dire qu'il y a des familles...
Si on a un parent qui a une atopie, on a à peu près 30%, je dirais, de chance d'avoir une manifestation de l'atopie, l'eczéma, l'asthme, etc. Si on a les deux parents, on peut aller jusqu'à 70% donc, de chance de manifester également une des maladies de l'atopie. Le deuxième type d'eczéma, ce sont surtout l'eczéma de contact, où là, il n'y a pas de prédisposition génétique. On va toucher quelque chose, il va y avoir un allergène, c'est-à-dire une substance exogène de l'extérieur qui va provoquer de l'eczéma. Donc, c'est essentiellement les zones qui sont exposées à l'environnement. Ça peut être les mains, on peut aussi avoir au niveau du visage, parce qu'on a pris cet allergène, on l'a déposé, etc. Et à chaque fois qu'on est en contact avec cette substance, on va avoir une poussée, sans prédisposition génétique.
Et quels sont les allergènes qui sont susceptibles justement de déclencher une réaction ?
Il y a des milliers d'allergènes. Donc ça peut être, il y a plusieurs catégories, des métaux, des cosmétiques, des conservateurs, certaines substances, certaines plantes, certains médicaments, etc. Donc là, chacun a son lot, va tirer au sort un allergène. Et la troisième catégorie, c'est les eczémas des mains, et c'est au pluriel, parce qu'on met un peu tout, c'est le reste des eczémas, où on a un peu d'irritation, un peu d'eczéma de contact, un peu d'allergie, un peu de perturbation de cette barrière cutanée, où c'est des gens qui ont toujours les mains craquelées, sèches, avec des poussées un peu sointantes d'eczéma.
Est-ce que ça peut regrouper les maladies professionnelles, que ce soit par exemple les poissonniers, les coiffeurs, les gens qui ont beaucoup les mains dans l'eau, ou ça n'a rien à voir ?
Effectivement, pour l'eczéma de contact, et j'ai oublié de vous préciser que cet eczéma de contact peut compliquer ultérieurement une dermatite atopique. C'est-à-dire qu'on a toutes les conditions de la dermatite atopique et en plus on a de l'eczéma. On peut effectivement avoir, pour certaines professions, des problèmes par rapport à cet eczéma et on peut avoir des reconversions professionnelles. C'est parmi aussi les complications de ces maladies. Si on est allergique, entre parenthèses, à tel produit, par exemple pour un coiffeur, etc., pour un boulanger, un pâtissier, malheureusement, on ne pourra plus exercer. Ça va être très difficile d'exercer sans avoir de poussée d'eczéma.
Est-ce que l'eczéma est une maladie qui peut toucher toutes les parties du corps ?
Au sens large, oui. Mais pour chaque maladie, on va avoir des caractéristiques. Pour la dermatite atopique, ça commence souvent très très jeune, vers l'âge de quelques mois, et c'est souvent les convexités de la peau, c'est-à-dire les pommes, le front, les faces externes des bras, ça c'est les premiers mois. Avec une... Ce qui est particulier chez les nourrissons, c'est que vraiment le nez et la zone médiane du visage sont conservés. Et plus on va avancer dans l'âge, et la topographie va changer. Ça va être plutôt les plis du coude, au niveau du cou, les plis, les creux poplités, mais on peut en avoir partout, on peut être couvert de la tête aux pieds.
Les creux poplités ?
C'est-à-dire les creux au niveau du genou.
Poplité. Voilà. Et sinon, on peut en avoir ailleurs.
Et pour l'eczéma de contact, au début, c'est les zones qui sont en contact. Par exemple, les gens qui ont, pour certains métaux, ça peut être la boucle de la ceinture. Donc, c'est vraiment l'ombilique. Mais au fur et à mesure, ça peut s'étendre un peu plus loin. Au niveau de la montre, les faux bijoux, au niveau des oreilles. Donc, c'est au début localisé au niveau de la zone contact avec l'allergène ou le produit. Et après, ça peut s'étendre ailleurs. Les mains, l'eczéma des mains, c'est souvent au niveau des mains.
Alors, quel est le bon médecin de l'eczéma ?
C'est le dermatologue, mais c'est souvent une prise en charge pluridisciplinaire, vu qu'il y a, pour l'eczéma atopique, il y a quand même un terrain d'atopie. Donc, il faudra travailler, bien sûr, le dermatologue en première ligne, ça peut être le pédiatre, l'ophtalmo, le pneumologue, et on doit gérer tout ça éventuellement avec un soutien psychologique. Et je dirais que les parents ont aussi un rôle extrêmement important. C'est pour ça qu'on parle de prise en charge pluridisciplinaire, où tout le monde va participer pour vraiment réussir la prise en charge. Mais c'est souvent des dermatologues qui traitent les dermatoses inflammatoires chroniques, et il y a des centres spécialisés qui travaillent aussi avec la société civile et tous les réseaux et les associations qui existent.
Et donc ça, c'est aussi le rôle d'une association comme la vôtre, hein, Stéphanie, c'est de recenser les bons spécialistes quand on en cherche un.
Oui, tout à fait. On parle de pas mal de centres d'éducation thérapeutique avec lesquels nous travaillons. Et puis, on essaye, via nos événements, de pouvoir apporter des réponses aux patients. Hein, via notre journée nationale de l'eczéma, par exemple, le matin, il y aura des conférences en ligne organisées. Il y a pas mal d'experts qui vont pouvoir répondre aux questions des malades à cette occasion-là. Voilà, on essaye de créer ces événements avec les professionnels de santé pour que les patients aient un maximum de réponses à leurs questions, parce que c'est vrai que le dermatologue, il est de moins en moins accessible.
Il est rare.
C'est difficile d'avoir un rendez-vous, malheureusement, comme pour tous les professionnels de santé, et on comprend hein, tout à fait la situation. Donc c'est vrai qu'on essaye, comme on peut, nous, au sein de l'association, pour aider les patients, les aider aussi à rencontrer des patients comme eux ou des parents aussi qui vivent les mêmes situations pour se sentir aussi moins seul, parce que c'est vrai que l'isolement peut être très très lourd hein, pour ces patients qui ont du mal à trouver des solutions, qui essayent beaucoup de choses et qui sont un peu perdus. Donc c'est vrai que ces centres d'éducation thérapeutique et puis les associations de malades sont là pour les aider.
Alors docteur Zara, on dit souvent que l'eczéma c'est dans la tête. Oui ou non?
Oui et non. Quasiment toutes les réponses.
Oui et non. Oui bon, et non. Donc c'est voilà. Bien, voilà.
L'eczéma est dans la tête ou dans le sens où il y a quand même un lien entre plusieurs choses, c'est-à-dire que la peau et le système nerveux ont la même origine embryologique. Donc on peut dire, oui, l'eczéma est dans la tête. Quand on se gratte, c'est quand même une terminaison nerveuse. Et l'eczéma aussi peut être exacerbé par le stress, par toutes les émotions. Donc ça se passe aussi dans la tête. Mmh. Mais c'est la combinaison de tous ces facteurs qui est à l'origine et qui va entretenir et pérenniser ces lésions d'eczéma. C'est pour ça qu'on doit agir à plusieurs niveaux. Au niveau de la peau, mais également une prise en charge psychologique adaptée et répondre aux patients. Par exemple, c'est comme on l'a cité là, il y a une sensation d'isolement. Donc il faut aider le patient à ne plus être seul, l'encadrer et trouver le bon centre ou le bon médecin ou la bonne équipe médicale qui va permettre de l'orienter avec une infirmière pour l'éducation thérapeutique, éventuellement un psychologue, des associations, les patients entre eux et le médecin bien sûr.
On parlait avant de maladies psychosomatiques.
On parle même actuellement de plusieurs maladies psychosomatiques et en dermatologie, il y a plusieurs maladies psychosomatiques dans l'eczéma parce qu'il y a toujours ce cercle vicieux. On a de l'eczéma en stress parce qu'on a de l'eczéma et le stress aggrave la maladie. Mmh. Donc bien traiter, c'est déjà rompre ce cercle vicieux pour que le patient n'ait plus de manifestation d'eczéma, peut avoir le temps de gérer son stress et donc fera moins de poussées d'eczéma au final.
Aujourd'hui, où on parle de plus en plus des émotions, on dit que la peau est le miroir de notre état émotionnel.
Effectivement, c'est une très très belle phrase. Mais on peut deviner si une personne est stressée ou pas, parce que l'eczéma évolue par poussée, donc on devine bien qu'il y a des périodes, heureusement, de rémission. Et souvent, il y a un lien entre stress, même si ce n'est pas le seul facteur déclenchant. Donc, pendant les périodes de zénitude, il y a beaucoup moins de poussée.
On parle même d'une nouvelle spécialité. Alors, la psychodermato, vous m'avez dit que ça existait depuis longtemps.
La psychodermatologie existe depuis très très longtemps, effectivement. Et ça prend en charge toutes les maladies où il y a une participation du stress dans l'exacerbation de ces maladies pour déjà diminuer un fardeau par rapport à cette maladie. Puisque l'eczéma, comme on l'a vu, il y a plusieurs facteurs. C'est comme un puzzle. Et du coup, le stress ou la psychologie, c'est quelques pièces de ce puzzle. Donc, si on peut déjà traiter cette partie, ça permet d'avancer sur d'autres choses.
Stéphanie, vous, en tant que patiente, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu?
Oui, tout à fait. J'ai essayé moi aussi l'hypnose, par exemple, qui m'avait beaucoup aidée à calmer le cerveau. et puis, du coup, travailler un peu sur ces sensations de démangeaison, essayer de retrouver le calme pendant ces crises. Donc oui, effectivement, je pense qu'on a tous essayé, on essaye tous hein, de trouver des choses à améliorer dans notre quotidien pour aller mieux. Mais c'est vrai que les facteurs déclenchants peuvent parfois être indépendants de nous et des crises peuvent être encore présentes.
Vous, par exemple, vous avez réussi à identifier certains facteurs déclenchants?
Moi, je suis très allergique au pollen et aux graminées. Donc c'est vrai que je suis embêtée une très bonne partie de l'année à cause de ça.
Et c'est le moment en plus, là. Vous hibernez en ce moment?
C'est ça.
On parle de l'eczéma ce matin. Je rappelle que c'est samedi que vous organisez la journée nationale de l'eczéma. On retrouve toutes les informations où, Stéphanie ?
Sur notre site associationeczéma.fr.
Et on en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Arrête de gratter, c'est le slogan de la Journée nationale de l'eczéma et on en parle aujourd'hui avec Stéphanie Méran qui est notre invitée, qui est fondatrice de l'Association française de l'eczéma qui organise samedi cette journée nationale. Et puis nous avons avec nous le docteur Inès Zahara, dermatologue à l'hôpital Saint-Joseph de Paris. C'est presque un miracle que d'avoir un dermato parce qu'il y a une vraie pénurie de dermato et c'est pas terminé, m'avez-vous dit Inès?
Effectivement, il y a une petite hémorragie de départ à la retraite et très peu de recrues.
C'est pour ça qu'on peut on peut consulter en ligne maintenant.
Oui, mais la téléconsultation ne résout pas tous les problèmes.
Ça accélère les choses en cas de.
Voilà, ça permet d'initier les choses. Ouais. Voilà.
On était avec Stéphanie, on parlait tout à l'heure des pollens. Vous dites que le printemps c'est une saison où tous ceux qui souffrent justement d'eczéma hibernent, en tout cas ceux qui sont sensibles aux pollens. Comment est-ce que vous vous protégez vous des pollens? Vous avez un truc?
Alors moi je porte des grosses lunettes noires avec des bords sur les lunettes qui sont assez larges. Et j'ai souvent une casquette ou un chapeau pour protéger les cheveux, pour éviter de devoir laver les cheveux tout le temps.
Y a d'autres trucs là pour se protéger des pollens? Pour ceux qui font du vélo notamment, de la trottinette ou...
Il n'y a pas de bouclier anti-pollen, mais effectivement il faut porter certains vêtements pour que le pollen se dépose dessus et pas directement sur les muqueuses ou sur la peau, et rapidement prendre sa douche en arrivant pour limiter le temps de contact et peut-être aussi éviter les endroits où on sait qu'il y a énormément de pollen, les parcs, Après si on évite ce genre d'endroit, on peut tomber aussi dans la pollution qui va aussi aggraver l'eczéma. Mais c'est pas la seule saison où il y a une aggravation de l'eczéma, l'hiver aussi où l'air est très très sec, va assécher la peau, on peut avoir aussi des poussées d'eczéma. C'est pas que le printemps.
D'accord. Le soleil, c'est bon pour l'eczéma ou pas?
C'est toujours oui ou non, parce qu'on traite l'eczéma avec les ultraviolets, c'est-à-dire les rayons du soleil, pour certaines catégories d'eczéma et pour certaines formes sévères, dans des cabines médicales, je précise bien, pas les cabines de bronzage. Mais le fait de s'exposer au soleil, avoir un coup de soleil, ça ne va pas améliorer l'eczéma. Voilà. Donc ça peut être un traitement, ça peut être un facteur aggravant.
Alors, on ne dira jamais à quel point le Covid et les fameux gels hydroalcooliques qu'on se met toute la journée maintenant n'ont pas aidé ceux qui souffrent d'eczéma, Stéphanie.
Oui, on a eu pas mal d'appels au secours en période de Covid sur le lavage des mains. Ça a été assez compliqué, oui.
Donc, quelle est l'alternative dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des gels qui sont plus à conseiller que d'autres ou pas? Docteur.
Déjà, le gel hydroalcoolique, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait une certaine concentration d'alcool au-delà de 70%. Donc, oui. On imagine bien que de toute façon, en irritant. Après, il y a eu quand même un effort de fait pour rajouter des facteurs ou des éléments qui vont hydrater. Mais là aussi, il faut faire attention parce que si on va avoir assèchement plus allergie à cause des ingrédients, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, si on a l'occasion de se laver à l'eau et avec un produit nettoyant non irritant, oui. Mais on n'a pas de robinet d'eau accessible à chaque coin de rue, malheureusement.
Et qu'est-ce qui permet de bien s'hydrater, se réhydrater alors, finalement?
Il y a des crèmes hydratantes qu'on appelle médicalement les émollients. Donc il faut hydrater régulièrement la peau parce que restaurer la barrière cutanée permet d'avoir moins de poussées d'eczéma. À titre d'exemple, pour un adulte moyen, il faudrait 1 kg d'émollient par mois pour hydrater la peau de quelqu'un qui a un eczéma atopique.
Ça veut dire quoi s'hydrater en parlant de peau d'ailleurs?
C'est-à-dire passer la crème hydratante sur la peau, idéalement en sortant de la douche, quand la peau est encore un peu humide, elle est beaucoup plus réceptrice. Et du coup, la peau va être moins sèche, on restaure sa barrière cutanée, on est moins sensible à l'environnement.
Alors,
on
se gratte moins. Alors, en termes de traitement contre l'eczéma, on a connu ce qu'on appelle une véritable révolution. Vous, Stéphanie, en plus de 10 ans, vous avez constaté cette révolution?
Ah oui, tout à fait. Depuis quelques années, on a eu des traitements un peu plus ciblés et adaptés à l'eczéma, qui est comme les biothérapies ou les anti-JAK, qui sont des traitements beaucoup plus ciblés et qui redonnent vie à certains patients qui avaient perdu espoir.
Mmh. Donc, mais vous, vraiment, c'est quelque chose que vous avez vu en tant que patient, c'est ça? Vous avez constaté que votre vie et votre qualité de vie avaient changé?
Oui, ma qualité de vie a changé. C'est vrai que la maladie, elle évolue en grandissant aussi. C'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai été tranquille aussi avec la maladie. Ça part, ça revient. Ce qui est compliqué pour le patient, c'est vraiment de comprendre que c'est une maladie qui est chronique. Donc, en fait, elle peut nous embêter tout au long de la vie. Et c'est pour ça qu'il est autant important de poursuivre l'hydratation de la peau, même quand on n'a plus de plaques.
Mmh. Docteur Zahra, en quoi est-ce que finalement on peut parler de révolution thérapeutique selon vous?
Il y a une vraie révolution thérapeutique et on le voit quotidiennement parce qu'il y a des patients qui n'ont pas consulté depuis 10, 20 ans qui reviennent en consultation. Cette révolution, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup mieux compris les mécanismes de l'eczéma en général.
Alors, qu'est-ce qu'on a compris de nouveau?
C'est-à-dire toutes les substances inflammatoires qui sont incriminées, voire les cellules, les récepteurs. Du coup, on peut directement les cibler pour améliorer les signes ou les symptômes de l'eczéma. Donc on a les traitements biologiques, les petites molécules, donc on a des substances injectables et d'autres par voie orale, qui vont agir sur l'inflammation, sur ce prurite, c'est-à-dire cette sensation de se gratter, pour calmer grosso modo ce système immunitaire qui s'est un peu emballé par rapport aux facteurs de l'environnement. Mais n'oublions pas l'hydratation, toutes les précautions, les règles que nous avons déjà citées et choisir ces bons produits d'hygiène. Mmh. Donc tout ça à la fois, donc le puzzle maintenant on a un peu plus, beaucoup plus de pièces, on n'oublie pas ce qu'on avait déjà avant et on rajoute de nouveaux traitements par rapport à ça qui sont beaucoup plus efficaces.
Les nouveaux traitements sont plus ciblés, c'est ça que vous dites?
Beaucoup plus ciblés, qui vont aller directement cibler la substance qui est responsable de l'inflammation au niveau de la peau ou la fibre ou le récepteur qui est responsable du grattage.
Et elle s'appelle comment cette substance?
C'est des interleukines, donc il y a plusieurs catégories d'interleukines, 13 pour l'inflammation et d'autres pour la gratouille, etc. Mais il y a des traitements qui sont un peu moins ciblés, même s'ils vont cibler des récepteurs de l'inflammation en général et qui sont actuellement assez efficace et on arrive à améliorer les maladies. Avant, on disait de 20, de 50%, de 75% et là, on espère de 90% avec des scores spécifiques.
Dans la qualité de vie. Est-ce que l'allaitement maternel, c'est quelque chose qui préserve de l'eczéma?
Alors là, il y a eu beaucoup d'études, mais il n'y a pas d'études qui...
Scientifiques.
Si, il y a eu des études scientifiques. Après, c'est difficile de suivre sur 30, 50 ans des patients, c'est-à-dire de faire deux bras de patients, ceux qui ont été allaités par l'allaitement maternel et d'autres pas, et de voir dans 30, 40, 50 ans comment a évolué éventuellement leur eczéma. Donc il y a des études qui montrent qu'il y a effectivement un bénéfice, ou d'autres où les résultats sont beaucoup plus nuancés. Mais de toute façon, on encourage toujours l'allaitement maternel pour d'autres raisons, et notamment les relations enfant-mère.
Mmh. Alors, est-ce qu'il y a des choses à privilégier qu'il faut savoir, Stéphanie, par exemple? Est-ce qu'il y a des couleurs qu'il faut privilégier quand on a des poussées d'eczéma?
Des couleurs, je ne sais pas. Peut-être pas de rouge, parce que si on a déjà du visage rouge, en fait, rouge tomate. Non, ce qu'il faut faire attention, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment des textiles qui soient doux pour la peau, mettre peut-être plusieurs couches pour éviter de pouvoir se déshabiller au fur et à mesure plus la température augmente, par exemple c'est l'extérieur. Ça va être se couper les ongles assez courts pour éviter de se gratter, ça va être de couper les étiquettes des vêtements, ça va être utiliser des produits adaptés pour nos peaux, donc plutôt qu'on achète en pharmacie plutôt qu'en grande surface si possible. Ça va être de faire attention à toutes ces activités qu'on peut faire qui nous font du bien. Parce que c'est vrai que le moral, quand il est là, on supporte mieux une poussée d'eczéma si la tête va bien que quand déjà le moral est atteint. Donc voilà, privilégier des activités douces, écouter de la musique. Et pour les enfants, c'est vrai que l'hydratation de la peau, ça peut devenir un jeu ludique à partager en famille. Certains inventent des chansons pour pouvoir hydrater la peau de leur enfant avec des produits adaptés juste après la douche. Mmh. Donc voilà, à chacun de s'approprier finalement ces techniques anti-grattage, ce qui lui fait du bien, savoir s'écouter et surtout s'entourer des bonnes personnes. Hein. Le dermatologue, c'est vraiment très important de pouvoir aller le consulter pour en savoir plus et mieux comprendre sa maladie. Et puis, comme on a dit, il y a plusieurs équipes pluridisciplinaires qui peuvent être là pour accompagner les malades. Donc voilà, ne restez pas seul face à la maladie. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent vous être apportées.
Mmh. Est-ce qu'on peut développer un eczéma à n'importe quel âge de la vie ?
Effectivement, on peut développer son eczéma à n'importe quel âge. Pour l'eczéma atopique, ça commence quand même relativement jeune. Il y a d'autres qui vont faire avant d'autres manifestations de l'atopie, comme l'asthme, etc., puis l'eczéma. Mais pour l'eczéma de contact, on peut le faire à n'importe quel âge. Il faut être sensibilisé à la substance qui va déclencher l'eczéma. Donc si on la rencontre à 50 ans, on fera son eczéma à 50 ans.
Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais qui est une idée reçue qui a la vie dure, c'est que l'eczéma, ce n'est pas contagieux.
L'eczéma, ce n'est pas contagieux, effectivement.
Hein, comme les mycoses ou d'autres maladies.
Ce n'est pas un agent infectieux qui va nous contaminer parce qu'on a été à côté d'une personne. Après, toute dermatose peut prêter à confusion et stigmatiser la personne qui a une dermatose, et ce qui explique entre autres le retentissement sur la qualité de vie. Il y a des patients qui évitent de sortir en société, d'aller à la piscine, à la plage, et surtout en été, de montrer leur plaque d'eczéma parce que les gens vont les repousser parce que il y avait cette fausse idée qu'il s'agissait d'une dermatose contagieuse. Non, l'eczéma n'est pas contagieux. Il y a une prédisposition génétique pour l'atopie.
Stéphanie,
on a un exemple au sein de l'association. Ça a été le port du masque. Alors c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, le porter, ça, c'est compliqué parce que du coup, ça nous donne chaud, ça nous gratte, on a du mal à le supporter sur la peau. Mais d'autres étaient très contents de pouvoir le porter pour justement pouvoir se cacher, ne pas avoir de réflexion sur leur peau. Donc, ils ont plutôt bien vécu l'arrivée du port du masque.
Le Covid. Stéphanie, je rappelle que vous organisez donc samedi la journée nationale de l'eczéma. Vous avez dit que le matin, il y avait des conférences en ligne. Quels seront les sujets ?
On va parler de la dermatite atopique de l'enfant. On va parler aussi pour les adultes des nouveaux traitements, de la vie de couple, du sommeil. Et puis, plein d'astuces pour mieux vivre la maladie au quotidien.
Voilà, et toutes les informations sont sur votre site.
associationeczema.fr.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Stéphanie.
Merci beaucoup.
Voilà, vous retrouverez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. On remercie le docteur Inès Zara qui a dégagé du temps. Et on sait que le temps des dermatologues, c'est cher et rare en plus. Hein.
Avec grand plaisir, merci. Voilà,
j'espère que vous reviendrez nous parler d'un autre sujet passionnant, le psoriasis.
Je vous ai
trouvé tellement pleine d'enthousiasme sur les nouveaux traitements sur le psoriasis que je dis, il faut vraiment qu'on en parle.
Il y a énormément de traitements sur toutes les dermatoses inflammatoires chroniques. Merci. Gardons espoir.
Voilà, c'est ça que ça, on termine sur un message d'espoir. Et je vous souhaite de passer une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.